Parce que vous avez des choses à dire, des expériences à partager, parce que vous avez envie que ça change, Citoyens d'abord vous donne la parole.
Ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette, laissant les assiettes des autres vides, et qui ayant tout, disent avec une bonne figure, une bonne conscience, nous qui avons tout, on est pour la paix. Je sais que je dois leur crier à ceux-là, les premiers violents, les provocateurs de toute violence, c'est vous. Et quand le soir, dans vos belles maisons, vous allez embrasser vos petits-enfants avec votre bonne conscience, au regard de Dieu, vous avez probablement plus de sang sur vos mains d'inconscient que n'en aura jamais le désespéré.
À partir du mois d'octobre, l'atelier populaire d'urbanisme de l'île Five et Radio Pastel, dans le cadre de l'émission Citoyens d'abord, vous propose un nouveau rendez-vous, La ville est un loup, une émission consacrée aux questions du logement, à l'habitat et aux enjeux de transformation des villes. Ce sera tous les premiers samedis du mois, de 12h30 à 14h, sur Pastel FM.
99.4, 12h passées 35 minutes sur les ondes de Pastel FM. Bienvenue dans l'émission Citoyens d'amour. Et comme vous venez de l'entendre, à partir du mois d'octobre, avec nos amis de l'atelier populaire d'urbanisme de l'île Five et Radio Pastel, on vous propose tous les premiers samedis du mois un rendez-vous pour une nouvelle émission intitulée La ville est à nous. Avec moi sur le plateau, Tonio de l'APU, Simon de l'APU et Fabien Politiste, auteur entre autres de l'ouvrage collectif Sociologie de l'île, collectif de Gaiter. Et on reviendra sur le collectif aux éditions La Découverte pour la modique somme de combien, les copains?
Pas 9 euros. Dans
9 euros. On reviendra sur cet ouvrage collectif. Dans un premier temps, on présente un peu l'idée de cette émission. C'est une émission qui se veut interactive, consacrée aux questions du logement, de l'accès au logement et du droit au logement. Vous avez des problèmes d'impayés, vous avez des problèmes de charges trop élevées, vous avez un habitat indigne, vous êtes victime de discrimination dans l'accès au logement, vous n'arrivez pas à faire valoir vos droits et à entendre vos droits. L'APU est à votre écoute et vous informe, vous donne des conseils pour utiliser vos droits et vous aider dans vos démarches. Ce premier rendez-vous d'information citoyenne, c'est aujourd'hui, le 7 octobre. On se retrouvera début novembre, début décembre, début janvier, en espérant que cette émission puisse être utile. Ces émissions s'inscrivent dans une démarche de sensibilisation aux habitants des quartiers populaires de la métropole, puisque Pastel FM est émis sur toute la métropole. Spéciale dédicace à tous ceux qui nous écoutent, n'est-ce pas Tonio? Une émission soutenue par la métropole européenne de Lille, la DRGCS et la ville de Roubaix pour ce projet. Voilà pour l'introduction, présentation de ce cycle. Tonio, un mot sur l'APU, sur l'idée. Merci d'abord à vous d'avoir répondu à l'invitation, parce que c'est pas toujours simple de prendre sur son temps de militant ici et là, de pouvoir aborder ces questions, qui est une question fondamentale, et revenir sur un droit fondamental, le droit au logement, inscrit dans la Constitution, Tonio?
Bah oui, non, c'est tout à fait ça. L'idée là, c'est de prolonger pendant quelques séries d'émissions un boulot qu'on réalise nous par ailleurs au sein de l'association et que d'autres associations aussi font vivre ces questions de l'accès au droit au logement. L'idée, c'est de se dire les locataires, notamment les locataires, ont des droits. Mais il suffit pas que les droits existent pour qu'ils soient appliqués. Et on sait que c'est difficile de pouvoir faire appliquer dans la réalité, concrètement, matériellement sur le terrain, des droits qui existent dans des textes de loi, qui existent dans des documents écrits, mais qu'on a souvent du mal à un peu se saisir et pouvoir se défendre par rapport à ça. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir expliquer. Donc on aura une série d'émissions, les thématiques, elles peuvent être autour des questions des expulsions par exemple.
On va y arriver là au 15 octobre.
Et exactement, on va y arriver, on pourra prendre par exemple l'exemple de la trêve hivernale qui suspend les expulsions pendant un moment mais qui reprennent aussi aux alentours du printemps, le 31 mars. Et puis après, plus largement, c'est aussi se dire que la ville se transforme. On voit des constructions un peu partout, alors à Roubaix, mais on en voit aussi beaucoup à Lille. Et c'est l'idée de se dire, voilà, qui décide de ça, mieux comprendre pour qui on construit, qui construit, pour qui, comment, pourquoi. Et donc de pouvoir donner un peu d'informations aux habitants de la métropole sur comment la ville se transforme et comment la métropole avance. Et pouvoir s'y retrouver un petit peu plus là-dedans.
Un mot sur l'APU, Simon, Antonio.
Ouais, alors l'APU de FIV, donc c'est une association
précisée pour les auditeurs.
L'APU, Atelier Populaire d'Urbanisme de FIV, pardon. Donc c'est une association qui a qui est relativement jeune, qui a 3 ans, un peu plus de 3 ans maintenant, mais qui voilà, qui est pas née de rien. Il y a des APU, il y en a plusieurs. Antonio parlait, disait qu'il y avait plusieurs associations qui essayaient un petit peu de militer pour le droit au logement. Il y a un APU sur Lille, à Moulins et aussi au Vieux-Lille, mais il faut savoir que historiquement, et puis vu qu'on est à Roubaix, c'est chouette d'en parler, c'est né à la base dans les années 70, c'est bien connu, d'une lutte d'habitants du quartier de l'Alma qui se sont battus pour pas que leur quartier soit rasé au bulldozer et qui ont... chose qui arrive très rarement et qui donc du coup est...
C'est le quartier chic de l'Allemand dont tu parles.
Voilà, exactement. Ouais. Qui ont réussi à faire un peu plier les pouvoirs publics, à ce qu'ils soient en tout cas écoutés pour la rénovation de leur quartier. Et c'est un peu justement un des exemples un peu mythiques justement de la lutte pour le droit au logement qui a été repris. On a repris cet exemple-là bah, juste dans le sigle APU. Donc nous à FIV, on est un petit peu les petits derniers de la bande, quoi. Nous, nos actions, bah, comme disait Antonio, d'une part, ça, c'est axé notamment sur l'information, l'accès au droit au logement. Donc on travaille, c'est un travail d'accompagnement à la fois individuel et collectif des problématiques, que ce soit liées à des questions de dette locative, que ce soit des questions d'expulsion, des questions de conflits entre locataires. Ça peut aller de la simple caution, en fait, qui n'est pas rendue, jusqu'à des discriminations liées au logement, à des coups de pression mis par des propriétaires qui veulent expulser de manière complètement illégale leurs locataires qui sont pas forcément au courant de leurs droits et qui donc du coup dans ce rapport de force qui existe entre un locataire et un propriétaire cèdent souvent rapidement faute d'informations, quoi. Et du coup nous on est là un petit peu pour les soutenir, pour les aider, pour leur faire comprendre que leur situation elle est pas isolée, que c'est un peu un truc qu'on retrouve un peu partout et que voilà quoi, comme disait Antonio, voilà, faire appliquer le droit qui existe mais qui est très peu connu, quoi.
Juste par rapport à ça, donc nous on fait notamment de l'accompagnement par exemple dans le cadre des expulsions et on se rend compte que c'est un vrai travail en fait de faire un dossier d'allo. Aujourd'hui, c'est la loi d'allo qui vient essayer de pallier en fait, de proposer, qui oblige la préfecture à proposer un relogement à partir du moment où on est reconnu prioritaire au sein du dispositif. C'est très compliqué. Il faut être accompagné, il faut venir auprès des associations parce que même pour les associations, c'est déjà complexe de comprendre tous les dispositifs. Alors, il y a plein de choses qui se mettent en place, mais c'est vraiment difficile à saisir. Et donc, c'est un travail en soi. Et donc, voilà, l'association, elle aide à réaliser ce travail-là, qui est un travail de papier, beaucoup d'administratifs, rédiger des dossiers, faire toutes des photocopies, tout ça, c'est quelque chose qui prend du temps et qui a un vrai boulot à faire. Et donc nous, on vient accompagner les personnes, on vient filer un coup de main pour
ce travail-là. Un mot peut-être sur la loi d'Allo, est-ce que ça a permis une avancée ou pas?
Ben, la loi d'Allo, elle a permis une avancée dans les textes, on va dire. Voilà, on est reconnu, à partir du moment où on est reconnu prioritaire, il y a une obligation qui est faite à ce qu'il y ait une proposition de logement. Après, dans les faits, très concrètement, on se rend compte, et je pense que si les gens nous écoutent, certaines personnes qui ont déjà eu affaire au DALO se rendent bien compte que c'est très compliqué, il suffit pas juste d'être reconnu prioritaire. Ça aboutit très difficilement. On se rend compte que voilà, c'est ça.
Sur la métropole, par exemple, vous avez une idée de retour d'Allo?
Ben sur la métropole, on est une des régions où c'est le plus difficile en fait de faire aboutir ça.
Et donc on se rend compte
qu'il y a beaucoup de refus en fait par rapport à des situations où la situation ne rentre pas dans les cadres réglementaires, donc on est refusé. On sait aussi qu'il y a beaucoup de logements qui sont proposés, qui sont des logements où effectivement les gens en fait ont du mal à accepter un logement qui est vraiment insalubre, qui est dans des
bailleurs sociaux.
Oui, parce que de toute façon c'est des bailleurs sociaux.
Hein. Donc là on n'est pas dans le privé, quoi.
Non, là on n'est pas dans le parc privé. Justement, généralement c'est pour sortir aussi du parc privé qui peut être un peu oppressant, dans lequel on a un propriétaire qui est très présent et qui veut mettre dehors. Et donc c'est pour accéder au parc social. Mais le parc social, on sait à Roubaix, les gens savent très bien, voilà, c'est un parc qui est
y compris quand c'est parfois neuf.
Y compris quand c'est parfois à neuf, et on en parlera peut-être.
On peut en parler, on en parlera, oui, parce qu'il y a des fois il y a des constructions avec des malfaçons et des et des livraisons de travaux.
Ça s'est vu récemment.
Oui, oui, ça s'est vu avec des fuites et des champignons dans les maisons. On l'a vu dans la presse locale.
Donc. Exactement, exactement. Et alors peut-être pour compléter, donc il y a l'accompagnement individuel.
Voilà. Donc en fait il y a un peu deux volets à notre action. Donc il y a cet accompagnement individuel, mais qui pour nous du coup doit mener à des actions qui sont plus collectives sur. Sur le quartier et dans la prise en charge du quartier par ses habitants, quoi. Et donc du coup on essaye de créer des espaces un peu de convivialité, de discussion, et puis dans l'absolu si c'est possible d'action. Ça passe par du coup un local qui du coup sur le quartier est ouvert et permet d'accueillir quand elles le souhaitent des familles qui veulent discuter, s'impliquer dans la vie du quartier, etc.
Prendre un café, faire une photocopie, avoir un lieu de vie.
Voilà. On organise chaque semaine des cantines populaires à prix libre où les personnes du coup viennent avec nous, on fait la cuisine ensemble, on mange ensemble, on discute, on parle dans un cadre un peu plus, on va dire un peu plus calme, un peu moins tendu pour toutes ces questions-là et puis aussi d'autres, quoi, comme une vraie vie de quartier, quoi, finalement.
Et ça, vous faites ça dans vos locaux à la PU?
Dans nos locaux au 57 rue de Flers à Lille-Fives, à côté du métro Collier, voilà, à côté de la voie rapide. Et à côté de ça, on a aussi une petite bouquinerie qui essaie de se monter, qui essaie un peu de rassembler tout ce qu'il peut y avoir en termes de documents de droit justement, ou même de littérature, ou de sur les questions liées à l'accès au logement, aux discriminations, aux transformations urbaines, etc. Et puis après, c'est aussi des ateliers thématiques qu'on organise, par exemple sur la question des expulsions avec des familles concernées, où on essaie de trouver des solutions, etc. Toujours de manière collective. Et un engagement sur le terrain après auprès de groupes d'habitants qui ça peut être soit sur FIV, soit du coup ce qui nous a amené en fait finalement peut-être ici à Roubaix, c'est-à-dire des collectifs d'habitants qui se montent pour défendre leurs droits de manière collective par rapport à des questions de rénovation urbaine ou d'habitat insalubre et sur lesquels on essaye de donner des billes d'aider pour justement peser dans la mobilisation et dans le rapport de force, quoi.
Donc la mobilisation est une chose, tout un travail d'éducation populaire. En fait, le cœur et le moteur de votre travail, c'est l'action collective, entre guillemets, dans la mobilisation. Est-ce que avec des habitants qui sont parfois démunis, qui sont parfois au bout du rouleau, cette dynamique ou cette niaque pour pouvoir continuer à lutter? Parce que des fois, les gens, ils arrivent, ils sont cassés par la pression du droit, par la pression du bailleur, bref. Un tas de problèmes, on arrive. Est-ce que c'est quand même difficile si vous avez...
En tout cas, c'est le pari qu'on fait. C'est-à-dire, c'est le pari de cette association, c'est de se dire effectivement, les gens qui sont directement concernés, faut que ce soit eux qui se mobilisent, faut que ce soit eux qui se mobilisent collectivement pour réussir à faire ça. On se rend compte qu'effectivement, c'est un peu compliqué quand on a une procédure d'expulsion qui nous tombe sur la tête. On a un peu du mal à se dire, écoutez, je vais m'ouvrir vers les autres, rencontrer plein de gens pour essayer. Mais nous, on fournit cet espace-là, on fournit la possibilité de faire ça, et donc on n'a pas des victoires qui sont éclatantes aujourd'hui, mais on gagne petit à petit, on gagne, et quand on a gagné un dossier, quand on a fait reconnaître une personne comme prioritaire, qu'elle a trouvé un autre logement, qu'elle peut récupérer les enfants qu'elle avait pu à charge, parce que le logement était considéré comme insalubre, et donc les enfants pouvaient plus habiter là, et qu'elle récupère un nouveau logement, elle peut, voilà, c'est des petites victoires comme ça, où nous, à la PU, on est très content qu'on arrive à gagner ce genre de victoire là et à arriver à faire valoir le droit. Et donc après, nous, c'est le pari et voilà, les initiatives, elles sont là, ça avance.
Les moyens et les soutiens de la PU pour fonctionner, parce que au-delà de la force militante et de l'engagement des citoyens qui sont à la PU et j'allais dire des acteurs que vous êtes.
Je pense qu'on par exemple, donc on travaille avec une équipe de deux salariés qui sont à mi-temps, voilà. Et puis surtout une grosse équipe de militants bénévoles qui sont là derrière, qui essayent de filer des coups de main quand ils ont le temps, etc.
Faut savoir par exemple comment on accueille les familles, c'est des permanences d'accueil et du coup tout ça c'est géré par des bénévoles militants qui accueillent les familles de manière collective, écoutent leurs problèmes, etc. Donc vraiment le cœur du travail, il est vraiment militant à ce niveau-là. Et après sur les aspects plus techniques, c'est là qu'on a besoin de l'appui justement de personnes qui sont là tous les jours, de salariés pour mobiliser le droit, pour travailler avec les avocats, avec les services d'hygiène, avec la métropole, etc. Enfin tous les acteurs du logement et qui connaissent un peu tous les rouages du système, on va dire. Donc comment ça se traduit dans les financements, c'est on a commencé à se faire aider financièrement bizarrement et pas bizarrement finalement, notamment par des fondations privées, parce que c'est un peu compliqué de s'implanter sur ces questions là sur
la métropole et des financeurs
régionales, générales, plus tard, parce que du coup au début c'était vraiment donc la fondation Abbé Pierre, pour pas la citer, et puis aussi la fondation France,
spéciale dédicace à l'abbé,
voilà, même si aujourd'hui c'est un peu plus compliqué. Et avec l'idée de se faire reconnaître par notre action, la puissance publique, quoi. Et c'est un truc qui est en train de marcher, parce que c'est vrai que le travail qu'on fait, nous, on estime aussi à un moment donné que c'est pas normal que ce soit à nous de le faire, que ce soit soutenu par une action associative, alors que voilà, ce travail d'accompagnement, d'accès aux droits, on pourrait dire, que ça devrait être un travail c'est un travail de service public, et que aujourd'hui, pourquoi il doit être assuré par des associatifs, et que pourquoi aujourd'hui des services sociaux sont incapables de pouvoir prendre en charge ces questions-là. Enfin, la problématique du logement, c'est quand même une problématique fondamentale pour les habitants d'une ville ou d'une métropole, quoi. Enfin,
Et services publics, j'allais dire, vous avez des soutiens des bailleurs sociaux, de la ville, du conseil régional, question. Hein.
Auprès des bailleurs, on a une position qui est effectivement un petit peu compliquée, parce qu'on est amené
vos locaux, c'est du 1% logement, exclusion. Je sais pas, je pose la question.
Non, c'est du privé.
Les bailleurs sociaux, ce fameux 1% associatif qui existe toujours.
Non, on commence à être reconnu un petit peu par la ville de Lille, qui est un peu obligée de nous reconnaître, du fait que voilà, qu'on fait ce travail-là sur la ville, qu'on aide vraiment ses services dans son action de terrain auprès des populations qui sont les plus, qui connaissent le plus de précarité dans le logement, et puis aussi par la métropole. Donc voilà, après c'est dans la situation actuelle des financements de manière globale des associations et des baisses de dotation, etc. C'est compliqué pour nous comme pour beaucoup, mais c'est vrai que voilà quoi, on passe beaucoup de temps à ce travail-là, et des fois c'est un petit peu pénible, parce qu'on préférait passer plus de temps à s'occuper justement d'actions, de trouver des solutions pour des familles, plutôt que de remplir de la paperasse, etc. Mais on le fait.
Je pense, comme beaucoup d'associations, on est un peu sur deux terrains. Il y a un terrain très concret avec les gens en bas et d'essayer de trouver des solutions. Et puis de l'autre côté, il y a une autre bataille à mener pour survivre, en fait, quoi.
Vous êtes touché, par exemple, les contrats aidés? J'imagine, comme toutes les associations ou pas.
Il venait de se finir,
avec de la chance.
Donc vous ne pourrez pas le renouveler.
Voilà. Ouais. Mais donc, il y a vraiment deux batailles à mener. C'est vrai que c'est le quotidien de beaucoup d'associations. Ça peut être épuisant, ouais, au bout d'un moment.
La précarité de la vie associative.
Ouais, voilà, il faut vraiment avoir de la conviction. Il faut vraiment être, savoir pourquoi on le fait. Sinon.
Faut dire qu'aujourd'hui, même la situation budgétaire 2017 n'est pas forcément encore bouclée, et c'est des questions qui sont vraiment, c'est vraiment très compliqué de dealer avec ça, et voilà, enfin c'est un gros problème aujourd'hui encore, et ça va le rester pendant longtemps, je pense.
Bon, truc classique où tu peux vite te faire bouffer aussi par la gestion d'urgence. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes mobilisé sur l'urgence tout le temps, et puis si t'as du coup la tâche d'éducation populaire, de mobilisation, dont tu sais que t'en as besoin pour avoir des solutions durables, en fait, tu peux plus la mener, parce que t'es pris déjà par ton travail d'aide quotidienne, directe, de trouver des solutions, et c'est vrai que c'est tout le but aussi de pouvoir mobiliser du monde derrière ça. De continuer à avoir ces tâches-là aussi, par les bénévoles aussi, ce que je vous l'avais pas dit, mais il y a les bénévoles, les militants.
Combien de bénévoles à peu près?
Bah là, en réunion, donc nous on a des réunions une fois par mois.
Même des bénévoles qui donnent 2 heures, 3 heures de la semaine, mais
ouais, voilà,
on est une vingtaine
de personnes.
Une vingtaine, on va dire, il y a un noyau dur d'une dizaine de personnes, et des gens après
occasionnels
qui viennent, plus
d'une
vingtaine de personnes.
Les militants à la carte, comme je les appelle.
Non mais voilà, c'est sûr que sans...
Il en faut.
Bah oui. Que sans ça, on ferait pas grand-chose.
Bah sans la force militante, ça serait difficile.
Bah c'est ça.
Voilà.
Et c'est ça qui fait tenir beaucoup de choses, en tout cas, dans les quartiers populaires.
Ouais, le lien social, la présence des militants, même si c'est parfois difficile, c'est, C'est tout à votre honneur. Donc l'APU, 57 rue Collier, si vous avez un souci.
Rue de Flers.
Ouais. Rue de Flers au métro Collier, pardon.
Donc on fait des permanences, ouais.
Alors les jours de permanence voilà, pour ouais. les auditeurs.
Alors en fait, c'est chaque semaine, vendredi ou samedi, donc c'est le premier, troisième et vendredi du mois, et du coup le deuxième, quatrième samedi du mois. Du coup pour permettre aux gens qui travaillent en semaine de venir le samedi nous voir
matin, après-midi,
et c'est à 14h à chaque fois, pardon.
D'accord.
Et du coup pour d'autres le vendredi de venir à 14h. Il n'y a pas de rendez-vous, on n'est pas un guichet, on n'est pas là pour
vous venez aux permanences
pour
donc
voilà,
le premier, troisième vendredi et deuxième et quatrième samedi de chaque mois.
On est là pour discuter, pour passer un moment, enfin voilà quoi, on
un mail un téléphone un site, une page Facebook.
Bon, on peut donner sur, je pense de toute façon c'est bien de passer un petit coup de téléphone, comme ça on présente l'association.
Bien sûr.
On vous donne les dates de permanence et donc le numéro de téléphone c'est le 03 59 22 39 76.
On peut toujours laisser un message si on n'a personne.
On laisse un message si jamais on n'a personne, et puis il y a un site internet qui est pas fantastique mais qui mais donne quand même une bonne paire d'informations sur l'association.
Et c'est APU ?
APUFIV tout attaché @gmail.com.
Donc voilà, ça c'est pour l'adresse mail. 12h passées de 54 minutes, ça fait à peu près dizaine de demi-heure qu'on est ensemble, ça passe très très vite. On fait une petite pause musicale avec notre ami Farouk, fidèle à la technique. Je sais pas ce que tu nous as concocté, Farouk, on compte sur toi. Comment? HK, voilà, spécial dédicace à notre ami Kadour. Comme c'est notre Roubaisien national et que vous entendez partout, à chaque fin de manif, on lâche rien. Donc, je sais pas, Franck, merci à toi. On écoute HK.
Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Des amoureux, leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques ballons, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris jusqu'au soir vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, souvent court un drame. Oui, mais à Paname, tout peut arriver. Quelques rayons l'été, l'accordéon, la marinière, l'espoir fleurit au ciel de Paris. Jaloux de ses millions d'amants, il fait fonder sur nous son tonnerre éclatant. Mais le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel. Pour se faire pardonner, il offre un arc-en-ciel.
Parce parce que vous avez des choses à dire, des expériences à partager, parce que vous avez envie que ça change, Citoyens d'abord vous donne la parole.
Ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette, laissant les assiettes des autres vides, et qui ayant tout, disent avec une bonne figure, une bonne conscience, nous, qui avons tout, on est pour la paix. Je sais que je dois leur crier à ceux-là, les premiers violents, les provocateurs de toute violence, c'est vous. Et quand le soir, dans vos belles maisons, vous allez embrasser vos petits-enfants avec votre bonne conscience, au regard de Dieu, vous avez probablement plus de sang sur vos mains d'inconscient que n'en aura jamais le désespéré.
À partir du mois d'octobre, l'atelier populaire d'urbanisme de l'île Five et Radio Pastel, dans le cadre de l'émission Citoyenne à bord, vous propose un nouveau rendez-vous, La ville est à nous, une émission consacrée aux questions du logement, à l'habitat et aux enjeux de transformation des villes. Ce sera tous les premiers samedis du mois, de 12h30 à 14h, sur Pastel FM.
Entre le textile, le charbon, les murs de briques et les mines, les cités minières, le ciel gris, les usines, les courées, les pavés, les terrils, les crachins, le chicon, la grisaille, le brouillard et la jeanlin. J'y suis né, j'y errais, j'en ai fait tous les recoins, des plages de Dunkerque jusqu'au bistrot de Tourcoing. L'enfer du Nord, ses routes, ses trottoirs de pavés sur mon mountain bike. J'ai roulé, roulé, à grand bas des gros bergers, ruminé, rêvassé. Les semelles de mes Nike, je les ai usées, usées. Quand la pluie froide vient te glacer le front, de geler les larmes et de tremper le caleçon. C'est le stress, l'angoisse au rythme des saisons. 65 jours de soleil et 300 jours de dépression. À part ça, tout va bien chez moi dans le Nord. C'était juste 16 mesures pour te planter le décor.
Je suis un idiot, après de près mon salon. Acheté un Chabert, un bourrin, un frollo. Et alors, après de près de cela, je suis un idiot, après de près mon salon. Acheté un Chabert, un...
Voilà. Ça, c'était Saïd de MAP avec nous. 13h passées de 00 minutes sur les ondes de Pastel 99.4. Toujours avec nos invités de l'APU, Atelier Populaire d'Urbanisme de l'île Five. Nous avons eu le plaisir de vous présenter l'action et le travail mené par les militants et les salariés de l'association APU. Si vous avez quelques soucis d'accès au logement, de droit au logement ou d'information, vous n'hésitez pas. L'APU, 57 rue de Flers, c'est ça, hein, Simon, métro Collier, le premier et troisième vendredi de chaque mois, deuxième et quatrième vendredi de chaque mois, à 14h, les permanences sont ouvertes au public. Avec nous, un autre invité, Fabien, alors j'allais dire sociologue, politiste, membre du collectif De Guetter, on dira un mot sur De Guetter, le livre aux éditions La Découverte qui s'appelle Sociologie de l'île et qui revient sur l'histoire de l'agglomération et de toute la question de la reconversion de la métropole qui était quand même une métropole industrielle importante, qui a viré vers le tertiaire fin des années 80, début des années 90.
Ouais, même déjà avec un amorce dans les années 60, on pourrait dire, où il y a le choix qui est fait un peu.
Mais visuellement, ça a tourné dans les années 80-90. Un ouvrage collectif avec une équipe d'enseignants, chercheurs, sociologues, politistes, géographes, dont un sur le plateau. Alors là, Antonio, tu changes de casquette. Monsieur le thésard, monsieur le sociologue, bonjour, bienvenue. C'est comme ça qu'on dit, hein. Antonio Delphini et Fabien Desage qui sont avec moi sur le plateau. Alors Simon, j'imagine que tu as participé un peu de loin, tu as mis ton nez là-dedans ou pas?
Non, je l'ai lu avec attention seulement.
Et un ouvrage qui est disponible à la Maison à Découverte. D'ailleurs, je pense qu'il faudrait même faire une présentation à Roubaix de cet ouvrage.
Ouais,
qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'abord? C'est un ouvrage collectif. Vous allez nous dire d'abord un mot sur la genèse de ce projet et puis sur le collectif de Guetter. Fabien, on te l'honneur.
Je vais essayer de commencer à résumer. Comme tu disais, c'est un travail de 9 personnes, hein, donc avec une multitude d'approches. On peut dire que on a voulu faire un bouquin qui n'existait pas. Il me semblait qu'il n'y avait pas d'ouvrage relativement court, accessible. Hein, l'idée, c'est, tu l'as bien dit, c'est un bouquin d'une centaine de pages. On a essayé de l'écrire pour que plusieurs personnes puissent l'utiliser et qui synthétise ce que nous on pouvait voir dans nos recherches respectives en fait sur la transformation de cette agglomération. Alors le titre nous a été contraint, en fait, a été contraint par la collection de la par découverte. Mais en fait, dès le départ, on dit ce livre, c'est pas un livre sur Lille, la ville de Lille, c'est un livre sur l'agglomération lilloise. Et donc, qui parle par exemple beaucoup de Roubaix, qui parle de Villeneuve-d'Ascq, qui parle des beaux quartiers aussi, des communes périurbaines. Et alors, c'était d'autant plus important pour nous de dire, on va pas se concentrer seulement sur la ville de Lille, que ce qu'il y a d'intéressant dans cette agglomération, bah, c'est justement le poids des autres villes, le poids de l'agglomération. Hein. La ville de Lille, en tant que telle, ça représente à peu près 20-25% de la population de cette agglomération. Et donc, une des caractéristiques, c'est la faiblesse de la ville-centre, en fait. La ville-centre, elle est très faible. Et c'est encore plus vrai si on s'intéresse, comme nous, à la période industrielle, à l'industrialisation, au 19e siècle, qui fait exploser cette agglomération, parce que cette agglomération, elle est fille de l'industrie. Elle est fille de l'industrie, et c'est ce qui fait émerger Roubaix, Tourcoing, voilà, qui sont encore plus des filles de l'industrie. Hein. C'est des villes champignons qui explosent, qui passent de 5-7 000 habitants à 100 000, 120 000 au début du siècle pour Roubaix. Voilà, donc l'idée, c'était de dire... Si on travaille sur cet espace, il faut comprendre le système urbain. Il faut comprendre les relations entre toutes ces villes, entre les villes très riches et les villes très pauvres. Et donc c'est peut-être le deuxième point important du livre, c'est qu'en fait, il nous a semblé, quand on a regardé ce livre, puis il existait déjà des livres sur des autres grandes agglomérations françaises, on s'est dit, qu'est-ce qui caractérise en fait cette agglomération lilloise? Qu'est-ce qui la différencie des autres grandes agglomérations? Et ce qui nous a apparu assez vite, c'était la question des inégalités. C'est-à-dire que cette agglomération, pour dire vite, on le montre dans le bouquin, en fait, on pourrait dire que c'est l'agglomération la plus inégalitaire de France, hors des régions parisiennes.
Vous écrivez la plus ségrégée.
La plus ségrégée, donc ça veut dire, ça c'est sur l'aspect spatial. C'est-à-dire que inégalitaire, bah, c'est juste l'écart entre les revenus. Hein, on pourrait penser, comme ça, on a parfois des images un peu de la pauvreté. Hein, on pourrait dire, voilà, c'est une agglomération qui est pauvre. Et en fait, non, c'est d'abord une agglomération inégalitaire.
Concentration de pauvreté.
Concentration de pauvreté et concentration de richesse.
On en parle peu.
Et ça, on en parle assez peu.
On parle peu des ghettos de riches.
On parle peu des ghettos de riches, exactement.
Du fameux BMW.
Tout à fait, BMW. Hein, on le dit dans le livre que, par exemple, alors c'est forcément des images très frappantes. Roubaix, hein, on le sait, ville qui est considérée dans sa catégorie comme une des plus pauvres de France en termes de revenus. Hein, à peu près 45% des gens sous le seuil de pauvreté.
Mais qui est une ville riche en termes d'emploi.
Alors, qui est une ville riche où il y a effectivement beaucoup d'emplois, sauf que les emplois ne sont pas pour les Roubaisiens. Hein, c'est quelque chose qu'on essaie d'expliquer dans le livre, en fait. Et à côté de Roubaix, bah, Croix qui est une des villes du Nouveau, qui sont des villes qui sont dans les villes les plus riches de France. Hein, c'est-à-dire, quand on voit la contribution à l'impôt sur la fortune, feu l'impôt sur la fortune, qui n'existera bientôt plus.
Merci
Emmanuel Macron, voilà, qui supprime ça et qui était un élément peut-être, en tout cas, qui permettait au moins déjà de savoir où étaient les riches. Voilà. Donc, en tout cas, il y a ces écarts. Et ces écarts, Croix-Roubaix, ben ça date en fait du début du 20e ou même de la fin du 19e, la construction de ces espaces avec des inégalités très fortes. Le livre a voulu montrer d'où venaient ces inégalités, mais surtout comment elles se sont reproduites, comment elles se sont reconduites. Qu'est-ce qui fait que, en dehors un peu du mirage, un peu de la reconversion tertiaire, de ces nouvelles images, hein, la couverture du livre, elle montre au point, au fond, à Lille, et devant l'habitat, c'est le quartier de Moulin, hein, de Lille-Moulin, qu'est-ce qui fait qu'on a le mirage de la reconversion et qu'en fait, au contraire, il y a une très grande stabilité. Il y a une très grande stabilité, c'est-à-dire que les écarts de richesse, ils se sont, on pourrait dire, au mieux, ils se sont maintenus, et au pire, ils se sont plutôt accrus, en fait, ils se sont plutôt développés. Voilà, donc c'est un livre qui est parti d'essayer de comprendre des contrastes et de montrer que ça s'explique. Et on peut avoir des outils, et les sciences sociales, c'est aussi pour ça que c'est un livre de combat, on pourrait dire. C'est un livre qui est un livre d'interpellation, et nous, on espère que ce livre, ça va être un outil. Ça va être un outil pour tous ceux qui luttent, justement, pour pointer ces inégalités, pour pointer les discriminations, pour montrer déjà qu'elles existent, hein, et pour réfléchir à comment elles se perpétuent, et comment elles se sont construites, et comment elles se reproduisent aussi.
Comment êtes-vous arrivé à vouloir écrire un bouquin, parce que je vois le nom des auteurs, je veux dire, bon, c'est quasiment que du bac plus 25 là-dedans, des universités, des thésards, des politologues, des sociologues, des géographes, il y a des noms qui me reviennent, Stéphanie Prien que j'ai la chance de connaître et d'avoir croisé, ou Monsieur Lefebvre, ou bon, Anthony, on le connaît, il est là maintenant, ça va. Mais comment ces gens-là se sont, c'est quoi la genèse de ce projet? Comment c'est arrivé? qui est à l'origine de ce bébé, Tonio?
Et ben,
c'est qui le papa et la maman? Alors,
à l'origine, c'est plutôt un collectif, donc on a vraiment porté ça. Mais
peut-être après un mot sur le collectif et le nom de l'auteur du collectif.
Ouais. Mais l'idée, comme ça a été dit, c'est qu'il nous semblait qu'il n'y avait pas en fait cet outil-là qui résume assez synthétiquement et qui pose ce regard en disant non, tout ne se transforme pas en permanence, mais il y a des continuités, il y a des trucs qui restent. Je veux dire, la métropole elle s'est construite et aujourd'hui, c'est voilà, il y a des tout n'est pas en perpétuel changement. Et en fait, c'est vraiment cette idée-là, je pense, qui nous a tous rassemblés autour de la question de ce bouquin-là. Et donc, plus qu'une personne, je pense, c'est vraiment le sentiment de devoir faire, de devoir dire ce qui est dit à l'intérieur de ce bouquin-là. Quoi.
Il y a bien l'un d'entre vous qui a commencé, qui a rappelé les autres, qui leur a dit bon, les gars, venez.
On peut dire qu'il y a eu un rôle important et qui est pas là aujourd'hui et qui a pas pu être là, mais qui a joué un rôle important là-dedans. C'est Sylvie Niall, hein, qui est la coordinatrice. Et donc, c'est vrai qu'au départ, il y a aussi une initiative. Il y a un labo de sciences sociales. Il se trouve qu'il y avait eu différents projets qui avaient émergé de faire un livre dans cette collection, puisque cette collection c'est une collection nationale. Ouais. Et puis effectivement, l'idée a été reprise, notamment au niveau du Clercé, donc qui est un laboratoire de sociologues et d'économistes à Lille, et notamment voilà autour de Cécile. Assez rapidement, il y a eu l'idée de rassembler les énergies, les forces, de mettre
tous
en relation.
Tous ces gens-là ne se connaissent pas, si.
Pas tous forcément. On a appris à se connaître. Hein. Voilà, ouais. Parfois on se connaissait, mais typiquement, moi j'ai appris d'horizons différents quand même.
Non, mais c'est bien. Ça veut dire aussi la richesse d'un travail collectif qui est présenté là. Donc, alors un mot. Le collectif de Getter, et c'est qui celui-là?
Alors c'est qui Pierre de Getter?
Donc Pierre de Getter, De Getter, on a choisi ce nom-là, c'est le nom d'un ouvrier donc qui était immigré belge flamand, qui est arrivé pour travailler dans l'usine Fifkai Babcock, qu'on appelle comme ça aujourd'hui, qui à l'époque construisait du matériel de la mécanique ferroviaire. Et donc il est venu à la fin du 19e siècle s'installer et il a composé, on lui a demandé de composer la musique de l'Internationale. Donc le chant avait été fait par Eugène Potier au moment de après la Commune, et lui on lui a demandé de mettre en musique ce chant-là qui est devenu un chant un des plus internationalement connus. Et donc il a habité à Fives, il a habité à Lille, et donc là voilà, c'est sous forme de clin d'œil, on voulait reprendre la référence à cet ouvrier.
Chant à la mémoire des travailleurs, quoi, des émigrés, des travailleurs, des ouvriers de toute classe, de toute origine.
Ouais, c'est ça. Je pense que c'est effectivement quelqu'un de connu, mais qui est pas si connu que ça. Si on demandait la plupart des gens de l'agglomération lilloise, qui est de Getter, je pense que la plupart le savent pas. Mais comme tu l'as dit, pourquoi c'était important que ce soit de Getter? Parce que de Getter c'était un immigré. Et c'est une façon de montrer aussi que, en fait, cette agglomération lilloise, déjà au 19e siècle, par l'immigration belge, flamande, en fait, qui peuplait les usines, hein, la majorité de la population à Roubaix à la fin du 19e était flamande, hein, et donc ça parlait flamand dans les communes, etc. Bon. Donc c'est un immigré qui est venu avec sa famille, et donc ça, c'était le début d'une histoire d'immigration qui a été permanente, en fait, et qui a souvent d'ailleurs fourni la main-d'œuvre ouvrière de cette agglomération, qui a fait sa richesse. C'était un immigré, et c'était aussi quelqu'un qui a participé du mouvement ouvrier. Et le mouvement ouvrier, ça a été la façon, et on en est le cœur, hein, l'agglomération lilloise, ça a été un cœur mondial de la façon dont des gens qui étaient dominés dans un rapport d'exploitation, qui étaient les perdants plutôt, qui travaillaient mais qui en même temps subissaient, souffraient, se sont organisés pour prendre la parole. Et finalement, il n'y a pas eu tant de ça dans l'histoire, de moments où des gens qui sont en situation plutôt d'être dominés s'organisent, créent des institutions, créent des outils, défendre leurs droits, vont éventuellement après avoir des élus qui vont aussi construire
Jules Garoubet, par exemple.
Voilà, Julien, figure
du mouvement ouvrier.
Tout à fait. Et donc ça, c'est un élément. Et puis dernier élément aussi de Getter, il y a un petit clin d'œil parce que de Getter, c'est un musicien et il apprend la musique en créant lui-même quelque chose qui va s'appeler la Société de la Lyre des Travailleurs, qui est quelque chose qui apprend la musique aux travailleurs. Et donc c'est un clin d'œil de dire la culture, c'est pas que l'île 2004. C'est pas que l'île Renaissance, c'est aussi le fait qu'il peut y avoir, des formes de culture populaire,
typiquement,
lui, il fait de la musique de l'international, c'est quand même pas rien, quoi. Et c'était ça, cette idée.
On aurait pu caler un morceau de l'international si on avait pensé. À la prochaine émission, Tonio, on veut l'original de.
Exactement.
Hein, tu notes. Très bien. Alors, sur peut-être la construction de ce bouquin collectif, revenir aussi sur l'histoire entre entre la métropole, entre Lille et Roubaix, entre alors la métropole, c'est la communauté urbaine de Lille qu'on a souvent appelée le Grand Lille, ou je sais pas maintenant c'est métropole européenne lilloise, ou je sais plus, ça a tellement changé de nom. En fait, c'est quoi? C'est Lille, c'est 80 communes aux alentours, 86 si je dis pas de bêtises, environ 1,2 million d'habitants, une concentration de population importante, une concentration de pouvoir économique aussi très important, des transports, on est maintenant soi-disant au cœur de l'Europe, à une heure de 2 heures de Londres, à 30 minutes de Bruxelles, à 2 heures de l'Allemagne. Donc tout ça s'est construit autour de la puissance industrielle. Alors qu'elle soit du textile pour ce qui nous concerne, mais aussi pour d'autres industries dans la métropole, et tout ça s'est transformé en tertiarisation.
Alors ouais, c'est ça, c'est un drôle de mot, hein. Quand on dit tertiarisation, on a l'impression que c'est la modernité, là. Ça a changé la situation des gens, des services, l'high-tech, OVH, les hébergeurs. On voit des choses qui apparaissent a priori assez positives, ou en tout cas qui montrent une transformation. C'était aussi une idée forte du livre, en fait. C'est-à-dire qu'on a voulu aller voir, c'est quoi ce tertiaire, en fait? De quoi on nous parle? Et là, on voit bien que les mots, parfois, c'est un obstacle pour comprendre les choses. En fait, le tertiaire dans la métropole, et on le montre bien dans le livre, le tertiaire, qu'est-ce qu'il caractérise? C'est que c'est un tertiaire très précaire. C'est un tertiaire, qu'est-ce qu'on va, on va imaginer ça pour les gens qui nous écoutent, hein, ça veut dire qu'en fait, le tertiaire, quelqu'un qui travaille dans un entrepôt logistique aujourd'hui, quelqu'un qui travaille comme caissier ou caissière, quelqu'un qui travaille dans les services de la personne, donc qui font des travaux qui sont considérés comme extrêmement pénibles aujourd'hui, ce sont des emplois tertiaires. Et donc, on a voulu montrer, effectivement, quand on regarde les statistiques, l'agglomération lilloise aujourd'hui, elle a plus la part d'emplois tertiaires, elle est supérieure à celle de villes comme Lyon, par exemple, hein, ou de villes même comme Toulouse.
Pourquoi? Qui sont beaucoup plus grandes.
Qui donnent une image en tout cas de dynamisme, hein, on va de dynamisme économique, qui sont relativement plus riches, qui sont parfois moins inégalitaires. Et donc on se dirait, voilà, bon, la tertiarisation, elle a fonctionné. Sauf que la tertiarisation, ce qu'on essaie de montrer dans le livre, c'est que c'est un tertiaire très inégalitaire aussi, et surtout précaire. C'est-à-dire qu'une grande part de l'emploi tertiaire, ben, c'est des emplois mal payés, avec du temps partiel contraint, et parce que ça a été une des façons dont cette métropole, cette agglomération s'est reconvertie. Bah, ça a été par des choses qu'on connaît très bien, hein, qu'on connaît tous très bien, et qui sont souvent venues du textile. Ça a été la grande distribution, ça a été la logistique, et donc ça a créé un ensemble d'emplois dont on peut questionner aujourd'hui. Est-ce que c'est des emplois qui permettent de bien vivre, de se loger, et voilà. Donc on a essayé de regarder de manière là aussi assez objective, hein. On a fait un travail à partir des données qu'on avait, des données de l'INSEE, de la statistique publique, etc. Et qui montre que c'est quand même une des caractéristiques. C'est-à-dire qu'on a eu une conversion tertiaire très poussée, qui fait aussi qu'on a beaucoup plus vite que d'autres agglomérations abandonné l'emploi industriel. Hein, ce qui peut poser des questions. C'est-à-dire que, vous voyez, j'ai dit tout à l'heure, l'agglomération fille de l'industrie. Il y avait des usines, et tout le monde, tous nos auditeurs, ils les connaissent, partout. Ils les voient partout. L'emploi industriel, plus de 100 000 emplois, hein, dans le textile, autour du textile, dans les années 70, 120 000 emplois sur le textile. Des milliers, des dizaines de milliers. Et ces emplois, d'une part, ils n'ont pas été tous, la conversion n'a pas permis de tous les combler, hein. Et en plus, quand ça a comblé, bah ça a précarisé cet emploi. C'est-à-dire que ce sont des emplois plus précaires. Et aujourd'hui, les gens, ils le savent bien. C'est-à-dire que travailler dans un chronodrive, travailler dans les emplois domestiques, hein, c'est des emplois qui sont beaucoup moins protecteurs. Et c'est des emplois aussi, on a moins de collectifs de travail.
Ouais, c'est pas très précaire, quoi.
C'est très précaire. C'était dur, les boulots dans les usines. On n'est pas en train de dire que les boulots dans les usines, c'était très, très, très difficile. Mais dans les usines, il y a eu un ensemble de combats qui avait permis aux travailleurs d'avoir un ensemble de protections, hein, un ensemble de droits qu'ils avaient gagnés. Donc c'est ça la grande différence. Et dans les emplois tertiaires, on pourrait dire aujourd'hui, les travailleurs sont beaucoup plus esselés, hein, et donc ça explique que, je lisais les statistiques encore, à Roubaix, seuls 38% des gens qui sont en emploi entre 15 et 64 ans, donc la plupart de la population active, seuls 38% sont en CDI.
38%.
En CDI, donc la forme d'emploi la plus stable, en contrat à durée indéterminée. Ça veut dire que la majorité des emplois de la population roubaisienne, hein, je parle, hein, ce sont des emplois aujourd'hui qui sont plutôt sur des formes précaires. Voilà. Ce qui est le paradoxe, c'est que par contre, il y a des emplois, tu le disais Ali à Roubaix, il y a des emplois puisqu'il y a plus d'emplois que de population active, mais les gens viennent travailler d'ailleurs.
C'est une forme de discrimination, entre guillemets, pour les locaux, si je peux me permettre, pour les métropolitains qui sont de telle ou telle ville. Il y a à l'accès au logement, à l'accès aux droits, à l'accès... Et quand on veut essayer de sortir, entre guillemets, de sa ville ou de son quartier, c'est parfois très difficile.
Et juste, je pense que le livre montre ça, et je pense que c'est une des choses assez importantes, c'est le poids des transformations de l'économie, en fait. Mmh. Et des fois, on a du mal à voir, parce que c'est des choses qui se déroulent sur des périodes assez longues et assez fortes, mais il y a des choix qui sont faits, et des choix qui sont politiques, des choix à l'intérieur des entreprises, de délocaliser, de reconvertir dans une autre production. Et ça, en fait, ça a des conséquences qui sont fondamentales, mental en fait pour les territoires. Et donc on n'explique pas tout avec les choses économiques, mais si on comprend pas que fondamentalement l'économie elle transforme les territoires de manière très très importante, on ne comprend pas les choses. Et donc là on essaye de remettre cette transformation là, cette tertiarisation dont on parlait, c'est le résultat alors de stratégies dans les groupes textiles où on a dit aujourd'hui bon écoutez là on fait plus assez d'argent avec la manière dont on fait le textile aujourd'hui, on va aller délocaliser dans certains pays où la main d'œuvre est moins chère, on va retransformer l'appareil productif, on va retransformer les usines ici dans des nouvelles, donc à l'intérieur des entreprises. Et puis on a des politiques qui ont à un moment donné dit ok d'accord, c'est comme ça que ça va se passer, c'est comme ça que ça va se passer, et nous il faut qu'on accompagne ça, on peut pas aller contre ça, on ne peut pas aller contre ces intérêts là il faut qu'on accompagne. Et donc, voyez, c'est le mix de ces deux choses-là qui fait la situation qu'on connaît aujourd'hui. Quoi.
Historiquement, vous saurez situer le passage de l'économie qui prend le dessus sur le politique, parce que c'est quand même ça. La politique donne des orientations, l'économie qui est la force. Et quand on arrive on est en plein dedans là. C'est plutôt l'économie qui dirige et qui fait l'agenda. Ouais. On va dire les choses clairement. À quand situez-vous cette dans la métropole en particulier? Et puis après, peut-être Tony, il y a un truc qui me revient sur les groupes textiles ou les groupes industriels, enfin le patronat pour dire les choses dans le langage classique, facilite l'accès au logement et construit, parce qu'il y a une politique de logement aussi, une politique il faut des ouvriers en bonne santé, donc pas trop loin de l'usine, un peu comme les houillères, enfin les mines qui construisaient autour d'eux, fallait pas que le gars il fasse 50 km pour venir bosser. Ça c'est la deuxième question, mais peut-être pour revenir sur l'économie qui prend le dessus sur le politique et qui fixe l'agenda.
C'est une très bonne question. En fait, je te dirais que le pouvoir économique il s'est très très vite structuré. Il a très vite été puissant. Il a très vite essayé d'ailleurs de conquérir les institutions politiques. Motte. Hein, ici, on a l'hôtel de ville de Roubaix. Il ne faut jamais oublier quand même que le fronton de l'hôtel de ville, c'est une fresque qui est censée être la gloire du travail. Et au moment où le pouvoir patronal, Motte, a gagné la ville. Donc, il y avait ça. Mais ce qui s'est passé, ce qui a fondamentalement changé, c'est que jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, en gros, les représentants du mouvement ouvrier et les représentants de la majorité de la population, ils se considèrent comme en lutte contre les pouvoirs patronaux. C'est-à-dire qu'ils disent oui, on a de l'activité économique, mais nos intérêts sont pas tout à fait les mêmes que ceux de M. Motte. Et donc, on va défendre les intérêts des ouvriers, et on le voit très très bien, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, le pouvoir politique, il se considère comme en lutte. Donc, c'est un rapport de force, en fait. C'est un rapport de force où, parfois, le pouvoir politique et le mouvement ouvrier va contrebalancer, J.B. Lebas, qui va créer des institutions qui sont faites pour défendre les ouvriers, qui va être en lutte autour du logement, qui va créer du logement contre les intérêts, parfois, patronaux. Le changement, Seconde Guerre mondiale, après Seconde Guerre mondiale, il y a un premier changement. C'est qu'en fait, les élus locaux se disent, on va davantage s'entendre avec les patrons autour du maintien d'abord de l'activité industrielle. Donc d'abord, les premiers accords et les premiers compromis, la première idée qu'en fait les intérêts vont dans le même sens, etc., hein, ce qui est un peu une tarte à la crème aujourd'hui, c'est après Seconde Guerre mondiale. Et dans les années 60-70, j'allais dire, le problème, hein, c'est que il va toujours y avoir ces accords et ces compromis entre le grand patronat local et les élus, ou la majorité des élus, mais ça va plus être autour de la défense de l'industrie, ça va être autour de la reconversion tertiaire, justement. Et donc, les élus, ils vont accompagner, en fait, le mouvement, comme le disait Tonio, beaucoup plus qu'ils vont s'y opposer. Et le problème, c'est qu'effectivement, on voit très très vite que cette reconversion tertiaire, elle est aussi très inégalitaire. Un des paradoxes duquel on est parti, je disais tout à l'heure, Roubaix, donc, une des villes les plus pauvres de France de sa catégorie, si ce n'est la plus pauvre. Parmi les cinq plus grandes fortunes françaises, deux sont issues de Roubaix. Mullier, Arnaud, d'accord, c'est deux Roubaisiens, hein, c'est des gens. Donc, et pourquoi? Parce que ce sont typiquement des exemples de reconversion du patrimoine et du capital textile. Donc, quand tu disais, voilà, à quel moment, on pourrait dire que ce qui s'est surtout passé, c'est que pendant une période, qui a été assez brève finalement, hein, peut-être de 40-50 ans, Il y a une représentation politique qui disait les intérêts de la majorité de la population sont pas ceux du grand patronat. En tout cas, il faut entretenir un rapport de force. Et à partir de la Seconde Guerre mondiale, et on est encore là-dedans complètement, il y a plutôt l'idée de faisons des partenariats, construisons ensemble effectivement une nouvelle économie. Sauf qu'on voit bien que cette nouvelle économie, elle a beaucoup de perdants, hein, et que concrètement, il y a beau y avoir sur le site de l'Union des nouvelles entreprises qui s'installent, les habitants locaux et notamment tous les héritiers des gens qui ont travaillé dans les usines, eux ils sont pas concernés par ces emplois, ils peuvent pas accéder à ces emplois. Ces emplois, ils sont pas faits pour eux. Ils n'ont pas été conçus pour eux. Et ça, cette incapacité aujourd'hui voilà, dans le livre, on dit, c'est aussi un problème, bien sûr, politique. C'est un problème de représentation politique, c'est un problème de parti politique aussi, ces questions.
Et de discrimination sociale. Et de classe.
Bah, fondamentalement, derrière ça, il y a effectivement la question des classes sociales. Et donc, je pense que c'est un discours qui a disparu progressivement. En fait, il faut revoir, hein, mais c'est un discours qui était majoritaire dans les années 70. Enfin, les gens pensaient les choses comme ça et c'était assez compliqué de remettre en cause ces questions-là. Aujourd'hui, voilà, on a une pensée qu'il faut du consensus, quoi. Il faut un consensus et les rapports de force, tout de suite, c'est difficile, ça va pas. Mais bon, c'est ça qui construit les choses aussi. Et donc, pour répondre à la deuxième question que tu posais sur le logement, en fait, à Roubaix tout particulièrement, le poids du patronat sur les questions du logement a été très très important. On s'appuie sur les travaux de Durier et Cornuel qui ont écrit un ouvrage qui s'appelle Le Mirage urbain, une histoire du logement à Roubaix.
Qu'on les invite.
On
va la mettre dans notre liste, Nuno.
Ah ben c'est un ouvrage qui date un petit peu, début des années 80, je crois.
Mais qui reste d'actualité.
Mais qui est limpide pour comprendre même les faits divers les plus récents là sur les questions du logement à Roubaix. C'est-à-dire que si on comprend pas que au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu une bipartition du logement social entre d'un côté les CIL. Donc aujourd'hui Villogia, mais d'un côté la construction des CIL et de l'autre côté la construction du Pacte, qui sont pas du tout censés accueillir le même type de public. D'un côté, on accueille des ouvriers qu'on essaie de stabiliser près des entreprises. De l'autre côté, on accueille ce qu'on pourrait appeler un sous-prolétariat ou des gens qui sont durablement hors du travail.
C'est exactement
ça. Et qu'il faut essayer de gérer pour maintenir aussi une certaine forme de paix sociale.
Ces classes dites dangereuses.
Voilà, exactement. Et ça qui se prolonge jusqu'à aujourd'hui, très concrètement, qui se prolonge jusqu'à aujourd'hui, le pacte aujourd'hui, alors avec des difficultés financières très importantes.
Qui a changé de nom. Qui s'appelle comment?
Qui s'appelle Solia aujourd'hui.
Ouais, si j'outil, on dirait un nom de jeune fille, ça m'a
dit. À Roubaix, il y a un poids fondamental là-dessus, et encore avec une mainmise d'une partie des héritiers de la bourgeoisie locale qui aussi a la mainmise sur ces outils-là. Et donc, ça, c'est fondamental. Encore une fois, on retrouve les questions économiques. En dehors de la production, hein, dans la sphère du logement, c'est fondamental pour comprendre Roubaix et pour comprendre l'agglomération à Lille.
Il y a un excellent ouvrage dans le bouquin, et j'y pensais tout à l'heure, c'est le terme, vous allez me le traduire en français, c'est le cas à Roubaix, mais pas dans certains quartiers, mais l'exemple pour moi le plus criant sur Lille, c'est quand même l'histoire de la gentrification de Lille, du Vieux Lille, du quartier populaire de Vieux Lille, qui avait une concentration de population ouvrière, aussi issue de l'immigration, en particulier algérienne, sur ce quartier-là, qui est devenu the quartier le plus chic de la métropole, où tout le monde place to be, comme dirait l'autre, et la commune de Lille a fait un véritable travail de nettoyage, entre guillemets, si je peux me permettre, mais c'est pousser gentiment ou tout doucement, enfin gentiment non, pas forcément, mais les populations les plus vulnérables, en vérité, une véritable politique de discrimination, de gestion de ces populations-là, et quand on voit ce qui est devenu de Lille...
Le vieux Lille, c'est vraiment une illustration de ce qu'on disait tout à l'heure, de l'accompagnement politique des transformations économiques. C'est-à-dire que c'est la loi Malraux, c'est la mise en place des plans de sauvegarde dans la loi Malraux, et donc on dit, on va favoriser le retour des investisseurs dans ces quartiers-là. Mmh. Ils y sont plus. Il n'y a pas le marché n'est pas dynamique, le marché du logement n'est pas dynamique. Donc on met en place des formes d'aides, de subventions économiques pour que les investisseurs reviennent à l'intérieur de ces quartiers et qui font qu'aujourd'hui, effectivement, le quartier du Vieux-Lille, à part quelques îlots près de Churchill, où il y a encore quand même des logements sociaux, mais très éloignés du cœur du quartier, aujourd'hui est devenu un quartier qui ne ressemble quasi plus en rien à ce qu'il a été dans les années
60. Qui est même un quartier qui est devenu invivable, en fait, pour les quelques populations pauvres qui y sont, parce qu'effectivement, les prix des biens, des denrées, le commerce, tout est structuré autour d'un quartier touristique ou de luxe, quoi. Hein, donc, il y a ça aussi, c'est que je pense que si on regarde sur le temps long, ça va être de plus en plus compliqué d'être pauvre, en fait, dans ces quartiers-là. Et alors, c'est vrai, ce que tu disais aussi, ça montre quelque chose qui est important, qu'on essaie de dire dans le livre, c'est que quand tu disais sur voilà, depuis quand l'agenda a été capté un peu par, et aujourd'hui on voit que la plupart des élus, en fait, ils ont renoncé à l'idée de mettre en place des politiques urbaines qui transforment notamment les conditions socio-économiques, et ils sont plutôt sur l'idée que pour résoudre les problèmes, en fait, il faut changer la population. C'est-à-dire qu'en fait, il faut créer de la mixité. Et il faut faire venir des classes moyennes supérieures. Il faut faire venir des gens en dynamique.
C'est un peu ce qu'ils disent sur Roubaix, quoi.
C'est exactement. Et donc, tu vois, il y a une espèce de, il y a souvent chez les élus, il y a un refus d'accepter leur population telle qu'elle est, en fait. Et ça, c'est une différence. Quand on parle des élus sans les héroïser, mais quand on parle des élus, je veux dire, Lebas ou Guedes, ils étaient contents d'avoir une population ouvrière et laborieuse. Ils étaient contents d'avoir une population. C'était ça leur force. C'était sur ça qu'ils s'appuyaient. Et puis leurs objectifs d'améliorer les conditions de c'était la population qu'ils avaient. Aujourd'hui, effectivement, on voit, et c'est pas seulement à Lille, hein, c'est vrai dans la région parisienne, hein, quoi, on a l'impression que les élus, en fait, ça leur plaît pas la population qu'ils ont. Et donc ils partent pas de l'idée que leur population est une ressource pour une transformation sociale, mais ils considèrent que ce serait quand même mieux qu'en fait on fasse venir d'autres personnes, que par l'effet magique il y a des gens qui sont plus riches qui vont arriver, puis qui vont améliorer la situation des plus pauvres. Puis ça, malheureusement, on a beaucoup de travaux en sciences sociales qui montrent que c'est pas vrai, ça marche pas. C'est pas parce qu'il y a des gens riches qui arrivent dans un quartier pauvre que le quartier il va mieux, et au contraire, souvent ça va plutôt moins bien. Donc
l'exemple de Oisem qui était où il y a eu une tentative de gentrification, c'est quartier coupé en deux, non?
Ouais, il est coupé en deux, en plus, historiquement aussi, parce que dès le départ, il y avait une partie du quartier qui était plus occupée par une bourgeoisie, mais oui, alors c'est un peu différent.
Un autre exemple sur l'île.
C'est un peu différent, mais c'est ça la même chose, quoi. C'est redynamiser les marchés immobiliers, attirer de nouvelles populations, et donc ça marche par un ensemble de dispositifs, de leviers, hein. On a les questions de la culture. Alors l'île, en fait, à l'île, on sent que cette dynamique-là, elle a commencé à vraiment prendre un envol conséquent après l'île 2004, avec la réhabilitation notamment, le symbole, c'était les maisons folies, où on reprenait d'anciennes usines, filatures, qu'on réhabilitait et dans lesquelles on mettait des activités culturelles, qui sont effectivement plus à destination d'un public jeune, éduqué, et donc voilà, c'est ces nouvelles populations-là. Après, la gentrification, c'est assez compliqué, ça peut marcher par plein d'aspects différents, donc il faut retrouver, mais... Voilà, c'est une montée en gamme. C'est une montée en gamme des logements et de la population.
Un petit mot, Simon,
ouais, là-dessus. Ce qui explique aussi que, du coup, quand on voit ce qui se passe à Roubaix ou ailleurs, c'est que, du coup, le parc social, par exemple, ou les logements les plus précaires, forcément, donc, du coup, pour les investisseurs, ne deviennent plus intéressants et qu'on se préfère se tourner vers des nouveaux marchés immobiliers à destination, du coup, des classes plus aisées. Et donc, du coup, ce parc un peu historique immobilier, il est complètement laissé à l'abandon. Que ce soit mais par des bailleurs sociaux, mais aussi par des propriétaires privés qui préfèrent laisser pourrir pour démolir et reconstruire au-dessus et faire des loyers plus élevés. Et ce qui fait aussi que, bah, comme on a malheureusement un peu trop l'occasion de le retrouver, que ce soit à Lille ou notamment beaucoup à Roubaix ici ces derniers mois dans la presse locale, des cas de figure de logements qui ou des personnes qui sont dedans ou comprennent pas pourquoi des travaux ne sont pas faits, etc., machin, parce que c'est clairement l'objectif, c'est pas de rentabiliser ces logements-là, c'est d'en construire du neuf, et c'est à destination de classes sociales qui sont plutôt les classes historiques de la métropole lilloise, quoi.
13h30, les gars, comme le temps passe vite, petite pause musicale, il nous reste une petite demi-heure, on se retrouve. Farouk, je sais pas, tu nous as calé quoi? Lily. Oh, elle revenait de Somalie, Lily. Ça, c'est une chanson de mon enfance. Je la connais par cœur, je l'ai appris à la chorale. Vas-y, merci Farouk.
Parce que vous avez des choses à dire, des expériences à partager, parce que vous avez envie que ça change, Citoyens d'abord vous donne la parole.
Ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette, laissant les assiettes des autres vides, et qui ayant tout, disent avec une bonne figure, une bonne conscience, nous qui avons tout, on est pour la paix. Je sais que je dois leur crier à ceux-là. Les premiers violents, les provocateurs de toute violence, c'est vous. Et quand le soir, dans vos belles maisons, vous allez embrasser vos petits-enfants avec votre bonne conscience, au regard de Dieu, vous avez probablement plus de sang sur vos mains d'inconscient que n'en aura jamais le désespéré.
À partir du mois d'octobre, l'atelier populaire d'urbanisme de l'île Fives et Radio Pastel, dans le cadre de l'émission Citoyens d'abord, vous propose un nouveau rendez-vous, La ville est à nous, une émission consacrée aux questions du logement, à l'habitat et aux enjeux de transformation des villes. Ce sera tous les premiers samedis du mois, de 12h30 à 14h, sur Pastel FM.
Parce que vous avez des choses à dire, des expériences à partager, parce que vous avez envie que ça change, Citoyens d'abord vous donne la parole.
Ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette, laissant les assiettes des autres vides, et qui ayant tout, disent avec une bonne figure, une bonne conscience, nous, qui avons tout, on est pour la paix. Je sais que je dois leur crier à ceux-là, les premiers violents, les provocateurs de toute violence, c'est vous. Et quand le soir, dans vos belles maisons, vous allez embrasser vos petits-enfants avec votre bonne conscience. Au regard de Dieu, vous avez probablement plus de sang sur vos mains d'inconscient que n'en aura jamais le désespéré.
À partir du mois d'octobre, l'atelier populaire d'urbanisme de l'île Fives et Radio Pastel, dans le cadre de l'émission Citoyens d'abord, vous propose un nouveau rendez-vous, La ville est à nous, une émission consacrée aux questions du logement, à l'habitat et aux enjeux de transformation des villes. Ce sera tous les premiers samedis du mois, de 12h30 à 14h, sur Pastel.
On l'a trouvée plutôt jolie, Lily. Elle arrivait des Somalies, Lily. Dans un bateau plein d'émigrés qui venaient tous de leur plein gré vider les poubelles à Paris. Elle croyait qu'on était égaux, Lily, au pays de Voltaire et d'Hugo, Lily. Mais pour Debussy, en revanche, il faut deux noirs pour une blanche, ça fait un sacré distinguo. Elle aimait tant la liberté, Lily, elle rêvait de fraternité, Lily. Un hôtelier rue Secrétan lui a précisé en arrivant qu'on ne recevait que des blancs. Elle a déchargé les cajots, Lily. Elle s'est tapé les sales boulots, Lily. Elle crie pour vendre les choux-fleurs. Dans la rue, ses frères de couleur l'accompagnent au marteau-piqueur. Et quand on l'appelait Blanche-Neige, Lily, elle se laissait plus prendre au piège, Lily. Elle trouvait ça très amusant, même s'il fallait serrer les dents, ils auraient été trop contents. Elle aima un beau blond frisé, Lily, qui était tout prête à l'épouser, Lily. Mais la belle famille lui dit, nous ne sommes pas racistes pour deux sous, mais on veut pas de ça chez nous. Elle a essayé l'Amérique, Lily, ce grand pays démocratique, Lily. Elle aurait pas cru sans le voir que la couleur du désespoir là-bas aussi ce fut le noir. Mais dans un meeting à Memphis, Lily, elle a vu Angela Davis, Lily, qui lui dit viens ma petite sœur, en s'unissant on a moins peur des loups qui guettent le trappeur. Et c'est pour conjurer sa peur, Lily, qu'elle lève aussi un poing rageur, Lily. Au milieu de tous ces gugus qui foutent le feu aux autobus, interdits aux gens de couleur. Mais dans ton combat quotidien, Lily, tu connaîtras un petit peu bien, Lily. Et l'enfant qui naîtra un jour aura la couleur de l'amour contre laquelle on ne peut rien. On l'a trouvée plutôt jolie, Lily. Elle arrivait des Somalies, Lily, dans un bateau plein d'émigrés qui venaient tous de leur plein gré vider les poubelles à Paris. On la trouvait plutôt jolie, Lily. Elle arrivait des Somalies, Lily. dans un bateau plein d'émigrés qui venaient tous de leur plein gré vider les poubelles à Paris. Elle croyait qu'on était égaux, Lily, au pays de Voltaire et d'Hugo, Lily. Mais pour Debussy, en revanche, il faut deux noirs pour une blanche, ça fait un sacré distinguo. Elle aimait tant la liberté, Lily, elle rêvait de fraternité, Lily. Un hôtelier rue Secrétan lui a précisé en arrivant qu'on ne recevait que des blancs. Elle a déchargé des cajots, Lily. Elle s'est tapé les sales boulots, Lily. Elle crie pour vendre des choux-fleurs. Dans la rue, ses frères de couleur l'accompagnent au marteau-piqueur. Et quand on l'appelait Blanche-Neige, Lily, elle se laissait plus prendre au piège, Lily. Elle trouvait ça très amusant, même s'il fallait serrer les dents, ils auraient été trop contents. Elle aima un beau blond frisé, Lily, qui était tout prête à l'épouser, Lily. Mais la belle famille lui dit, nous ne sommes pas racistes pour deux sous, mais on veut pas de ça chez nous. Elle a essayé l'Amérique, Lily, ce grand pays démocratique, Lily. Elle aurait pas cru sans le voir que la couleur du désespoir, là-bas aussi ce fut le noir. Mais dans un meeting à Memphis, Lily, elle a vu Angela Davis, Lily, qui lui dit, viens ma petite sœur, en s'unissant on a moins peur des loups qui guettent le trappeur. Et c'est pour conjurer sa peur, Lily, qu'elle lève aussi un point rageur, Lily, au milieu de tous ces gugus qui foutent le feu aux autobus, interdits aux gens de couleur. Mais dans ton combat quotidien, Lily, tu connaîtras un type bien, Lily, et l'enfant qui naîtra un jour aura la couleur de l'amour contre laquelle on ne peut rien. On la trouvait plutôt jolie, Lily, elle arrivait des Somalies, Lily, dans un bateau plein d'émigrés qui venaient tous de leur plein gré vider les poubelles à Paris.
Parce que vous avez des choses à dire, des expériences à partager, parce que vous avez envie que ça change, Citoyens d'abord vous donne la parole.
Ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette, laissant les assiettes des autres vides, et qui ayant tout, disent avec une bonne figure, une bonne conscience, nous, qui avons tout, on est pour la paix. Je sais que je dois leur crier à ceux-là, les premiers violents, les provocateurs de toute violence, c'est vous. Et quand le soir, dans vos belles maisons, vous allez embrasser vos petits-enfants avec votre bonne conscience, au regard de Dieu, vous avez probablement plus de sang sur vos mains d'inconscient que n'en aura jamais le désespéré.
À partir du mois d'octobre, l'atelier populaire d'urbanisme de l'île Fives et Radio Pastel, dans le cadre de l'émission Citoyens d'abord, vous propose un nouveau rendez-vous, La ville est à nous, une émission consacrée aux questions du logement, à l'habitat et aux enjeux de transformation des villes. Ce sera tous les premiers samedis du mois, de 12h30 à 14h, sur Pastel FM.
13h40, toujours sur les ondes de Pastel FM dans Citoyens. D'abord, la ville est à nous avec nos invités, Tonio, Simon et Fabien avec nous. On était sur l'ouvrage collectif de Jeter, Sociologie de Lille, et on a abordé un certain nombre de questions. Peut-être là, entrer sur ou prendre la porte de l'accès aux droits et de la lutte contre les discriminations. Il y a un passage, chapitre 3, si je dis pas de bêtises, hein, sous la métropole, une ville populaire et inégalitaire, et où on aborde concrètement les questions d'inégalité sociale, mais aussi de discrimination à l'accès, et aussi à la question de la lutte contre la pauvreté. Peut-être un mot là-dessus, Fabien?
Ouais, effectivement, c'est une des dimensions qu'on a essayé de prendre en compte en fait dans le livre, hein, c'est-à-dire de voir du point de vue des discriminations comment se situer cette agglomération lilloise. Et là aussi, alors je l'ai pas dit, mais en fait dans le livre, il nous a apparu en faisant le livre que l'agglomération qui ressemblait le plus à l'agglomération lilloise, en fait, c'était Marseille. Marseille beaucoup plus que Lyon, etc. Du point de vue, et notamment du point de vue des inégalités et des discriminations. Pour donner un chiffre qui est assez parlant, hein, en gros, le taux de chômage pourcentage des immigrés. Donc les immigrés, du point de vue de l'INSEE, hein, la statistique, c'est soit les gens qui sont nés à l'étranger et qui sont restés étrangers, ou les gens qui sont nés à l'étranger et qui sont devenus français, qui sont naturalisés français. Le taux de chômage, il le double. Donc pour les populations immigrées, il est le double, hein, et on a par ailleurs d'autres études, on n'en a pas beaucoup parce que c'est compliqué en France de travailler, notamment parce qu'il n'y a pas de statistiques ethniques par exemple, mais on sait par ailleurs que dans les quartiers prioritaires, hein, des politiques de la ville, le taux de chômage à qualification égale, il est souvent au minimum le double, hein, pour les populations qui sont racialisées, qui sont perçues comme étant étrangères ou des minorités. Donc voilà, ça c'est aussi quelque chose qu'on a voulu mettre en lumière, hein, c'est que cette agglomération aujourd'hui aussi, c'est une de ses caractéristiques. On peut dire qu'elle est marquée par l'immigration, mais que l'immigration, ça a été souvent une histoire de souffrance aussi, parce que les immigrés, déjà les Belges à la fin du 19e siècle, hein, ils étaient aussi souvent discriminés, ils avaient des accès au logement qui étaient moins favorables. La population maghrébine qui est arrivée après la Seconde Guerre mondiale, souvent elle est venue comme main-d'œuvre d'ajustement, hein, c'est-à-dire que c'était un moment où en gros le textile commençait à décliner et on donnait les emplois à cette immigration parce qu'en fait on allait jouer sur le coût de la main d'œuvre. Donc en fait, on faisait baisser les coûts de la main d'œuvre et on faisait baisser aussi le coût du logement, de tout ce qui était associé à cette population précaire. Aujourd'hui, voilà, on en a encore les traces et c'est sûr que quand on lit l'histoire récente, hein, de cette agglomération, le fonctionnement de ces quartiers, cette question des discriminations dans l'accès à l'emploi, dans l'accès au logement, hein, on montre par ailleurs aussi, on utilise des études sur est-ce que les populations qui habitent dans les quartiers prioritaires peuvent avoir accès aux nouveaux logements sociaux qui sont construits dans les communes périurbaines. Et de fait, non. En fait, elles n'ont pas accès. C'est-à-dire que maintenant, il y a des communes qui construisent des logements sociaux parce qu'il y a une loi qui les oblige à le faire. Mais
le fameux 20%.
Le fameux 20%, effectivement, qui a même été porté à 25, alors qui n'est pas respecté, mais même quand des communes construisent du logement social, en fait, elles le réservent souvent aux habitants de leur commune. Alors, les habitants de leur commune qui rentrent dans les plafonds de revenus, hein, c'est-à-dire que c'est des gens qui effectivement peuvent avoir besoin d'un logement social, mais sauf qu'on voit bien que toutes les personnes qui habitent dans un quartier prioritaire, qui habitent au Pile, qui habitent éventuellement à l'Alma, qui habitent à la Bourgogne, qui voudraient éventuellement accéder à un logement plus confortable, à un logement avec des conditions aussi, un environnement qui soit plus favorable, et de fait elles peuvent très difficilement, pour pas dire qu'elles peuvent pas en fait accéder à ces nouveaux logements. Donc ça implique peut-être de réfléchir aussi à comment l'action publique la prendra mot, hein, de dire si vous avez une politique de rééquilibrage du territoire, sur un territoire on l'a dit très ségrégé, c'est-à-dire très inégalitaire du point de vue de la répartition dans l'espace, il faut peut-être permettre à ceux qui le souhaitent, et qui veulent éventuellement aller dans d'autres communes, dans des communes plus privilégiées, de le faire, hein, permettre de le faire, parce qu'aujourd'hui finalement sur le papier on a l'impression qu'on peut y aller, mais il y a probablement parmi nos auditeurs des gens qui ont peut-être essayé, qui ont demandé des logements sociaux à Mouveau, à Croix, à Bondu, hein, parce que finalement c'était pas si loin d'où ils travaillaient, etc., ou qui s'imaginaient et qui se sont vus refuser ces logements.
Cette question, on appelle la ségrégation socio-spatiale dans le bouquin.
Ouais, c'est la question de ce qu'on met derrière le terme mixité sociale, en fait, qui aujourd'hui est devenu le mot qui oriente, qui justifie, avec lequel on vient présenter toutes les interventions sur la ville, et on se rend compte en fait que la mixité sociale dans les quartiers populaires, oui, c'est-à-dire mettre des gens plus riches dans un quartier pauvre, ça, il n'y a pas de problème, la mixité sociale.
Mettre des pauvres dans un quartier riche.
Ça se fait pas.
C'est ça qui est... c'est ça qui est beaucoup plus compliqué. Et donc, si on dit mixité sociale, on fait mixité sociale pour tout le monde, de la même façon, et sur tous les territoires.
C'est comme quand, dans les quartiers riches, on ne demande pas d'action collective ou de mouvement d'habitants ou de citoyenneté ou d'exemplarité en termes de participation des habitants. Je sais pas, vous connaissez un comité de quartier à Bondu, vous?
Alors, il y en a un qui s'est monté, mais pour effectivement, en fait, pour les habitants du centre-ville, pour lutter contre, effectivement, l'arrivée et la construction de logements sociaux.
Voilà.
Mais c'est vrai, tu as raison de le dire, on le dit jamais en fait, mais les quartiers les plus ségrégés, c'est-à-dire les quartiers les plus homogènes, où la population se ressemble le plus, c'est toujours les quartiers riches, beaucoup plus, c'est-à-dire que Bondu est plus homogène que Roubaix, par exemple.
Les quartiers populaires sont des quartiers politiques, comme dirait le titre d'un ouvrage d'une étude comparative entre la France et l'Argentine, le fameux
Denis Merkel,
qui a conclu les travaux de la Fondation Abbé Pierre, où nous étions, Antonio, c'est les quartiers politiques. En fait, les quartiers populaires sont des quartiers très politiques ou très politisés, d'où le travail de conscientisation, de mobilisation de la classe ouvrière, même si ça, malheureusement, ce n'est plus le cas quand on voit le taux d'abstention dans ce quartier, mais une explication historique, sociologique, tu pourras dire un mot là-dessus. Tout à l'heure, quand tu parlais, je voulais en revenir, parce que plus on vote et plus on est respecté, moins on vote et moins on est respecté, c'est-à-dire c'est un truc de base. Hein. Mais cette fameuse question de discrimination, vous y revenez sur la question de la métropole, entre autres sur alors là vie quotidienne des classes populaires précarisées, discrimination et racialisation de la question sociale. Et là vous prenez deux exemples, l'exemple le fameux exemple du traitement des Roms dans l'agglomération qui est quand même significatif, on peut pas dire plus. Et la question de la pauvreté quotidienne avec l'expérience sur laquelle vous revenez, Farida, entre ressources du quartier et travail de subsistance, de survie, si je peux me permettre, Tonio.
Ouais, c'est ça. Rapidement sur ces deux questions-là, sur la question de la place des Roms dans la métropole, on se rend compte que en fait, au milieu des années 2000, c'est recréer des bidonvilles en fait, et à Lille et mais dans d'autres villes françaises aussi, des choses qu'on avait vues un peu disparaître après les bidonvilles
de Nanterre.
Voilà, c'est ça, des années 60. Et avant, il y avait encore une autre forme qui était celle de la zone, sur les zones non édificandes. Bon, les bidonvilles ont une histoire comme ça, mais on les a vus revenir là, avec une vague. Le nombre de personnes, il est beaucoup moins important que les précédentes vagues d'immigration qui avaient construit ces bidonvilles là. Mais on a une politique qui ne va pas vers l'intégration de ces gens dans le logement classique, quoi.
On nous rappelle juste que nous sommes la quatrième ou cinquième puissance mondiale, quand même.
Mais voilà. Et aujourd'hui, il y a vraiment une forme de non-gestion de ce problème-là, qui est vraiment flagrante. Et après, sur l'autre aspect, c'est effectivement, tout à l'heure, on parlait des transformations économiques, des politiques publiques, et on a essayé de mettre en avant dans le bouquin aussi la vie quotidienne, la vie concrète, parce que la ville, c'est peut-être avant tout ça aussi, quoi. Des gens qui sont, qui occupent des quartiers, qui réalisent tout un ensemble de travaux. Et donc là, on met l'accent, effectivement, sur un travail qui n'est pas le travail salarié, c'est-à-dire que c'est pas le travail qu'on réalise en étant payé à l'intérieur des boîtes et tout ça, mais tout un ensemble de démarches qu'on essaye de mettre en parallèle d'un RSA généralement, parce qu'avec le RSA concrètement c'est très difficile voire impossible de vivre seulement avec le RSA. Et donc là on s'appuie sur les travaux du collectif Rosa Bonheur, qui est un collectif de chercheurs du Clercé, dont quelques-uns font partie de l'équipe qui a réalisé l'ouvrage Sociologie de Lille, et qui met en avant en fait la pluralité des formes de travail qui permet de compléter en fait des minima sociaux. Avec les minima sociaux on ne vit pas, mais donc on donne un coup de main à droite pour remplir un papier, un document, faire de l'administratif, on répare un scooter ou une voiture de l'autre côté qu'on pourra permettre de revendre après, et voilà, c'est toute une sorte d'économie un peu informelle qui se met en place et qui permet de faire tenir en fait, qui permet de faire tenir une partie de plus en plus importante de la population, notamment les gens qui sont voilà écartés du travail depuis très longtemps. Et donc voilà, c'est les encadrés qui ont été faits. Le collectif Rosa Bonheur a écrit plusieurs articles là-dessus. Et c'est quelque chose de vraiment important parce que c'est ça qui fait la ville aussi.
Il y avait une volonté aussi de montrer probablement une forme de dignité en fait aussi, c'est-à-dire que de face à un discours qui peut être vite un discours stigmatisant en fait des gens qui vivent dans ces quartiers populaires. Bon là, même s'il y a tout un tas de débats autour du non accès aux droits, on voit qu'il y a plein de gens dans les quartiers populaires qui n'ont pas recours en fait parfois aux droits ou aux allocations auxquelles ils auraient droit parce que voilà pour plein de raisons. Et donc contre ça, je pense que ces encadrés donc qui racontent des histoires aussi parfois personnel, biographique, c'est une manière de montrer aussi la dignité de gens qui luttent en fait, qui se battent pas de manière collective parfois, enfin pas tout le temps en tout cas, et tu le disais Ali sur quelles sont les structures aujourd'hui qui permettent de lutter collectivement, mais voilà, qui pour te faire chauffer la marmite vont avoir plusieurs emplois, vont s'organiser effectivement, vont faire par exemple, bon il y a un profil de quelqu'un qui connaît les endroits où on peut s'approvisionner pour pas trop cher, les braderies, hein, tout ce qui permet les modes de survie en fait des groupes populaires dans une situation de pénurie et de pénurie d'emploi et de pénurie parfois d'accès aux droits justement au logement, etc. Donc c'était aussi une façon de montrer voilà des formes de lutte et de subsistance qui sont souvent au contraire plutôt de populations souvent stigmatisées en fait et qui reprochent.
Et quand on s'intéresse à ça, on se rend compte que la figure de l'assisté, du pauvre qui est assisté et qui attend comme ça simplement que l'argent, en fait, c'est une image qui n'a juste aucun sens en fait, parce que voilà, il y a un énorme travail qui est mis en parallèle, ne serait-ce que pour avoir droit aux allocations et après pour pouvoir continuer à vivre. Donc voilà, très très loin de cette figure de l'assisté en tout cas.
Très bien. Juste pour revenir peut-être sur quelques chiffres que je viens de lire là sur la partie discrimination, racialisation. Vous revenez sur des chiffres de chômage et de comparaison de chômage entre Roubaix et Lille, entre Roubaix et Tourcoing, sur la métropole et sur les populations issues de l'immigration. C'est quand même assez hallucinant en termes de chiffres. Aujourd'hui, le taux de chômage des immigrés est de 27,6% dans l'arrondissement de Lille.
Pour les immigrés.
Ouais, pour les immigrés. Contre 13,9, c'est quasiment le double.
Ouais.
On est sur une véritable politique de discrimination institutionnalisée ou pas?
Ouais. Ben en tout cas, c'est souvent la discrimination. Le problème, c'est que c'est le résultat de plein de pratiques en fait. Et donc, c'est plein de pratiques qui parfois d'ailleurs se perçoivent pas comme de la discrimination, mais qui aboutissent à ces chiffres-là et qui sont par ailleurs hyper durement perçus par les gens qui en sont victimes. On sait, voilà, c'est un vrai cancer. C'est pas un gros mot de le dire. C'est un vrai cancer pour notre société. Forcément que des gens à qualification égale, à compétences égales, se retrouvent ne pas pouvoir accéder à un travail, à des logements, à parfois des formations. Donc le problème, c'est de faire exister ça comme un problème public. Hein, c'est-à-dire que finalement, les institutions considèrent qu'aujourd'hui, la discrimination, l'injustice, c'est une question de justice, hein, l'injustice dans l'accès à des choses auxquelles on a droit et dont on a besoin pour vivre, ça devrait être une priorité. C'est pas quelque chose qui est superflu, ça devrait être une priorité parce que comment se sentir faire partie d'un groupe, d'une communauté, comment se projeter dans l'avenir si finalement la première chose qu'on rencontre, c'est des formes de mise à l'écart et de mise à l'écart pour ce que l'on est ou pour ce que d'autres pensent qu'on est. Donc c'est effectivement une interpellation aussi et de fait on est assez pauvre, territorialement, mais on pourrait dire au niveau national, on est assez pauvre sur les politiques publiques qui permettront un jour de remettre en cause ça, hein, de remettre en cause ces injustices.
Mais en plus, vous allez plus loin, ce chiffre n'incluant pas les enfants nés en France discriminés au nom de leur origine présumée.
Ça veut dire ça sous-estime sûrement les chiffres.
C'est encore beaucoup plus important quand on sait qu'on est fils d'eux et éternellement issu de quelque chose. Et alors double discrimination en l'occurrence là, c'est pour les femmes.
Oui.
Alors, les chiffres sont hallucinants concernant les femmes en particulier. Le taux d'activité des immigrés est inférieur de 16,4 points à celui des non-immigrés, 71,7% dans l'arrondissement de Lille.
Ouais.
Donc alors, quand on est femme, c'est encore une autre forme de discrimination beaucoup plus importante. On le rappelle souvent sur l'égalité salariale, mais là, en termes d'accès au travail, c'est lourd, je veux dire.
Tout à fait. Et ça permet, c'est tout à fait ça, c'est vrai qu'effectivement il y a une double, sous les chiffres dont tu parles, en plus à chaque fois on compare avec d'autres agglomérations, hein, ça veut dire que ça
montre... On a l'air d'être les champions de France là.
Et effectivement, on est, en termes d'activité de travail féminin, effectivement, et de population immigrée, effectivement, on est les champions de France, ou les mauvais champions de France, on est les cancres, on pourrait dire, de France. Ça fait le lien avec ce que tu disais sur l'abstention tout à l'heure, hein, sur la question. Le livre, il interroge ça en fait, c'était l'idée de modestement, parce que nous, on est chercheurs, mais d'éclairer des populations qui sont invisibles et qui sont souvent inaudibles. C'est-à-dire que un des points du livre, c'est de dire que c'est au cœur du problème. C'est-à-dire que aujourd'hui, qui représente la voix de ceux qui n'ont pas accès aux nouveaux emplois tertiaires, de ceux qui sont éventuellement discriminés, de ces femmes ou de ces hommes. Et là, probablement qu'on trouve les raisons de taux d'abstention record. Tu parlais, que ce soit Lille, que ce soit Roubaix, que ce soit Tourcoing, les taux d'abstention aux élections lors des élections nationales ou locales sont énormes. Hein. À Lille, on a plus de 50% d'abstention, parfois 70% dans les quartiers populaires ou municipales.
On vous a battu à Roubaix.
À Roubaix, c'est record absolu. Et voilà. Et en même temps, est-ce que cette question, elle n'est pas plus simple que ce qu'on voudrait le dire. Pourquoi aller voter si on ne se sent pas représenté? Est-ce que c'est pas quelque chose d'aussi rudimentaire que ça? C'est-à-dire que comment faire
même on se sent représenté, on se sent pas entre guillemets ni respecté ni entendu. Même si des fois entre guillemets on peut se dire ouais on est représenté et que on a les pratiques identiques des partis politiques classiques. Bon, là, on n'a pas eu le temps, mais on n'a pas parlé de la pratique du Parti Socialiste, en l'occurrence, sur la métropole. Je pense que ça peut être le sujet d'un autre... On invitera Rémi Lefebvre.
Voilà, qui a fait un chapitre quand même là-dessus.
Tout un chapitre là-dessus. Mais c'est vrai, quand on regarde les pratiques du parti, entre guillemets, dominant sur la métropole pendant 30 ans, qui est en voie de disparition, paix à son âme, ou en état comateux en ce moment, c'est aussi la résultante d'une politique.
Bah, elle se voit très très bien. L'incapacité à représenter les classes populaires dont on parle, hein, et les classes populaires, les populations racisées ou les minorités, elle est flagrante. Hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, quelles sont les élites politiques locales qui pourraient prétendre, par leur vie, par leur biographie, par ce qu'ils ont connu, qui pourraient prétendre représenter ces populations. On voit bien qu'il y a un écart énorme qui s'est accru, et nos institutions, les institutions métropolitaines, si on fait la sociologie des personnels des élus au sein de ces institutions, ce sont des hommes blancs, ce sont des cadres, ils ont 50 ans, donc c'est encore plus vrai que dans d'autres institutions. Donc on voit bien que ce qui apparaît un mystère de l'abstention, en fait c'est pas un mystère, c'est une forme d'évidence. Hein. Aujourd'hui, d'ailleurs, il y a des collègues chercheurs hein, qui travaillent là-dessus et qui se disent aujourd'hui le vrai mystère c'est pourquoi des gens continuent à aller voter dans certains endroits. Moi j'aimerais bien en fait aller trouver les gens qui au pile parmi les classes populaires vont voter pour comprendre pourquoi ils vont voter alors que ça peut paraître si mystérieux le fait de se sentir représenté. Donc voilà, ça c'est un enjeu peut-être collectif duquel doivent participer les premiers concernés, mais aussi dont il faut réfléchir collectivement quelles sont les organisations qui pourront donner cette parole, puisque historiquement sans l'héroïser, mais on a été un territoire où typiquement voilà le mouvement ouvrier il a permis l'expression collective de gens qui n'étaient pas représentés, qui étaient aussi invisibles ou inaudibles à certaines époques, et qui se sont rendus audibles. Donc voilà, mais c'est tout un défi, et effectivement, les formations partisanes semblent assez démunies les unes et les autres pour prendre en charge ces revendications, bah, écouter le fait que certaines personnes peuvent souffrir, peuvent considérer qu'il y a des emplois à côté de chez eux qui ne sont pas pour eux. Donc voilà, qui va défendre leurs besoins ou leurs droits dans certaines circonstances.
Pour répondre à tout ça, l'action collective est une piste, je pense, qui est nécessaire et vitale pour la santé démocratique de notre métropole, mais aussi pour entre guillemets, avec des guillemets, au-dessus des guillemets, comme disait Antonio hier, pour le vivre ensemble, pour le faire ensemble, pour le faire société. Et bah, c'est ce qu'on essaye de faire ici sur les ondes de Pastel depuis 37 ans maintenant, oui. Radio associative depuis 37 ans. C'est ces lieux-là d'expression, entre guillemets, de militants qui agissent. Donc voilà pour cette première émission, Antonio. Un petit mot, Simon. Bah, 13h58, tu vois, on n'a rien vu passer.
Ouais, ouais, c'est très vite. Mais oui, c'est ça. Je pense que voilà, nous, on fait accompagnement aux droits, et ça, c'est de manière individuelle. Mais on sait très bien que les droits, faut aller les conquérir aussi. Ouais. C'est faut les faire appliquer. On les fait appliquer avec les personnes. Il faut que s'ils ont été conquis, il faut qu'ils puissent être appliqués pour tout le monde.
Et rester des acquis, il faut continuer à se battre.
Exactement. Faut
sinon,
aller
on peut conquérir les nouveaux.
Exactement.
Et c'est souvent là que les rapports de force réémergent au grand jour, là où ils sont souvent pacifiés, où on essaye un peu de dire le consensus, on est tous d'accord. Dès qu'on essaie de se mettre en marche pour défendre des droits qui sont même...
Pas en marche, s'il te plaît.
En lutte, s'il te plaît. Pour même sans parler de conquérir des droits nouveaux, même de défendre des droits existants.
De garder ses acquis.
Voilà, même ces luttes défensives-là, on voit que dès qu'on essaye de les mettre en œuvre, bah, les rapports de force, les rapports de domination réémergent et qu'on se heurte parfois à des murs et que... Faire du collectif, ça peut mener très loin, mais en même temps, en face de nous, il y a des fois, il y a des gens qui ont très bien conscience du rapport de force et qui le dominent et qui essayent de faire en sorte que les gens continuent de rien dire et que les choses restent en l'état, quoi.
Fabien, un petit mot de conclusion, 13h59, 1h06.
Vraiment rien à ajouter, effectivement, je partage le constat, mais c'était bien en tout cas de croiser, je trouve, la présentation d'action collective et puis d'accès aux droits, et peut-être aussi une réflexion sur quand on parle de ça, voilà, on parle de choses très vastes comme les inégalités, la représentation politique, et tout ça est relié.
Très bien, merci à vous les gars, 14h00. On a fait 1h30, c'est passé très vite. Rendez-vous dans un mois.
Parfait.
On sera le combien ? Attendez, je regarde mon calendrier. Début novembre. Alors, nous sommes le 7 octobre, et on se voit le 4 novembre, samedi, 12h30.
On fera un petit jingle pour annoncer le...
Il est prêt, il faudra juste qu'on donne la date.
Voilà, et la thématique.
Et la thématique, ouais, et éventuellement l'invité. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire sur le site de la radio ou nous appeler, hein, parce que l'antenne est ouverte, on n'a peut-être pas précisé aujourd'hui, c'était la première. Mais après, ça peut être interactif, hein, 03 20 113 59 00. Faut que ça démarre et que le téléphone arabe fonctionne pour pouvoir répondre à vos questions. Farouk, merci à toi, à la technique, 14h passées de 1 minute. Et en conclusion, alors là, pour le bouquet final, qu'est-ce que tu nous as casé? Comment? Ah, c'est pas l'homme. Renaud. Ah, mais bon, Renaud, il y a mal. Merci. Merci, Baroque.
Parce que vous avez des choses à dire, des expériences à partager, parce que vous avez envie que ça change, Citoyens d'abord vous donne la parole.
Ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette, laissant les assiettes des autres vides, et qui ayant tout, disent avec une bonne figure, une bonne conscience, nous, qui avons tout, on est pour la paix. Je sais que je dois leur crier à ceux-là, les premiers violents, les provocateurs de toute violence, c'est vous. Et quand le soir, dans vos belles maisons, vous allez embrasser vos petits-enfants avec votre bonne conscience, au regard de Dieu, vous avez probablement plus de sang sur vos mains d'inconscient que n'en aura jamais le désespéré.
À partir du mois d'octobre, l'atelier populaire d'urbanisme de l'île Fives et Radio Pastel, dans le cadre de l'émission Citoyens d'abord, vous propose un nouveau rendez-vous, La ville est à nous, une émission consacrée aux questions du logement, à l'habitat et aux enjeux de transformation des villes. Ce sera tous les premiers samedis du mois, de 12h30 à 14h, sur Pastel FM.
Moi la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Moi la mer, elle m'a pris, je me souviens, ma vie. J'ai troqué mes sentiers et mon cul sur un puzzle contre une paire de Docks et un vieux ciré jaune. J'ai déserté les crasses qui me disaient sois prudent. La mer c'est dégueulasse, les poissons mettent dedans.
Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous en allons.
C'est pas l'homme qui prend la mer. C'est la mer qui prend l'homme. Moi la mer elle m'a pris au dépourvu tant pis. J'ai eu si mal au cœur sur la mer en furie. J'ai vomi mon 4 heures et mon minuit aussi. Je me suis cogné partout, j'ai dormi dans des draps mouillés. Ça m'a coûté les sous, c'est de la plaisance et le pied.
Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allons.
C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Mais elle prend pas la femme qui préfère la campagne. La mienne m'attend au port, au bout de la jetée. L'horizon est bien mort dans ses yeux délavés. Assise sur une bite d'amarrage, elle pleure. Son homme qui la quitte, la mer c'est son malheur.
Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allons.
C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Moi la mer elle m'a pris comme on prend un taxi. Je ferai le tour du monde pour voir à chaque étape. Si tous les gars du monde veulent bien me lâcher la grappe, j'irai aux quatre vents, foutre un peu de boxon. Jamais les océans n'oublieront mon prénom.
Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allons.
C'est la mer qui prend l'homme. Moi la mer elle m'a pris et mon bateau aussi. Il est fier mon avis, il est beau mon bateau. C'est un phare de trois mâts, fin comme un oiseau. Cavalier, pageot, Kersozon, Riguidel. Navigue pas sur des cajots, ni sur des poubelles.
Dès que le vent